Quand est-ce que vous dites nous ? Est-ce que ça vous arrive au moins de l'utiliser ce pronom ? Ou est-ce que vous lui préférez comme tout le monde ? Le on ? C'est un grand débat, vous savez, l'usage du nous, sa relative disparition qui nous ramène à notre histoire sociale, culturelle, politique. Comment est-ce qu'on en est arrivé à mettre un peu de côté cette première personne du pluriel, puis à l'abandonner dans la langue parlée ? Ce qui est intéressant, c'est que le nous a toujours existé en français, mais petit à petit, les classes populaires le défient en utilisant un autre pronom, le on, jusqu'à le rendre ce nous un petit peu désuet. Il n'y a pas si longtemps, quand on disait « on est arrivé », par exemple, plutôt que « nous sommes arrivés », c'est un peu vulgaire. Mais petit à petit, dans toutes les couches sociales, c'est devenu du français ordinaire. Le « nous », on le réserve pour l'écrit, pour le langage formel, pour faire preuve de politesse, pour paraître un peu distingué. Ça crée une distance qui, depuis le milieu du XXe siècle, est de plus en plus marquée, au point qu'on l'emploie de moins en moins, dans toutes les couches de la société, dans la vie publique, comme dans la vie privée, et même dans les romans. Je ne sais pas si vous partagez avec moi cet étrange sentiment quand vous entendez ou quand vous lisez le pronom « nous », c'est comme s'il était d'un autre temps.
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui dit « nous », mais ne cesse de l'interroger aussi. Cinéaste, documentariste, son dernier film « Nous », primé au Festival de Berlin, sort enfin au cinéma. Elle nous invite à embarquer dans le RERB, à la découverte d'identités multiples. C'est un voyage passionnant qui interroge ce que l'on désigne par un mot qui ne se conjugue jamais aussi bien qu'au pluriel, la banlieue. Bonjour Alice Diop.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Qu'est-ce qu'on dit en fait quand on dit « nous » ? À quoi ça renvoie pour nous ? Pour vous plutôt, ce nous.
Moi, ça dit plein de choses en fait. Ça dit une. Ça... En tout cas, le nous que je dis, le nous que j'essaye d'interroger dans le film est à la fois un projet, à la fois un manifeste, à la fois une utopie, à la fois une question que j'adresse aux spectateurs, mais plus qu'aux spectateurs, que j'adresse aux citoyens. C'est quelque chose qui m'interpelle et qui me permet de sonder où on est, où en sommes-nous. Où en sommes-nous en tant que société, en tant que singularité additionnée à d'autres et en tant que projet. Où en sommes-nous ?
Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a en commun malgré nos différences ? Qu'est-ce qui nous unit ? J'ai l'impression tout simplement.
C'est ce que j'ai tenté de comprendre en fait. C'est-à-dire que c'est pas une réponse si simple. Je crois que la personne qui serait capable aujourd'hui de définir et de délimiter le nous. N'est probablement pas de mon bord politique, parce que moi j'ai l'impression que le mien, en tout cas, il est très élastique. C'est un nous qui est ignorant en fait de la manière dont il peut faire hospitalité à des gens qu'il n'a pas encore vus. Enfin, c'est vraiment pour moi c'est un mouvement, et en fait être attentive à ce nous, c'est être attentive en fait à ceux qu'on ne voit pas encore, à ceux qu'on n'a pas encore vus et qui s'additionnent de plus en plus, qui vont s'additionner à ce nous qui pourrait être un entre-soi pourrait être un entre-soi beaucoup plus petit qu'on le pense, mais quand on le, à partir de l'endroit où on le regarde, je pense qu'on peut le rendre plus élastique.
C'est passionnant. Il faut nous raconter. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand est-ce que vous avez été confronté à un nous, justement, Alice Diop ? Ce qui a été l'origine du film, en fait.
L'origine du film, c'est à la fois un livre que j'ai lu qui s'intitule Les Passagers du Racis Express, un livre magnifique d'un auteur et éditeur François Maspero, qui en 1989 a fait une randonnée autour de la ligne B du RER. En fait, c'est la ligne que j'emprunte moi-même et qui donne le cadre métaphorique et géographique à ce film. Donc c'est le désir en fait de traverser en fait ce territoire qui lie la banlieue nord à la banlieue sud et qui traverse des mondes sociaux extrêmement divers, extrêmement variés et qui tente de raconter la société française, en tout cas Maspero tentait de raconter la société française en arpentant ce lieu et en allant regarder et en allant marcher autour de cette ligne de train qui pour moi est très familière parce que j'ai grandi dans la banlieue nord de Paris et qui décidait d'aller arpenter la banlieue sans projeter aucun discours et en fait juste pour le plaisir d'y aller voir. Donc ça part de ce désir de cinéaste d'adapter ce livre et en même temps ça rencontre une tragédie de l'actualité qui ont été les attentats de Charlie Hebdo qui m'a sidéré comme beaucoup je pense et au fond, ça part d'une anecdote, plus que peut-être la une de Libération, dont je pourrais revenir après, qui titrait « Nous sommes un peuple » après la marche du 11 janvier. Ça part d'une anecdote qui m'a énormément marquée quelques mois après les attentats. alors que j'avais décidé de me mettre totalement à distance du bruit assourdissant médiatique, où tout d'un coup j'avais besoin de prendre du recul pour essayer de comprendre ce qui était en train de se passer. En fait, quand on travaille, quand on est documentariste, on a une espèce de manière d'interroger le réel qui fait qu'on n'est pas du tout dans le même temps que la nécessité de composer des réponses toutes faites sans avoir le temps finalement de métaboliser, de comprendre ce qui venait de se passer. Et pour en revenir à cette anecdote, c'était une interview que j'ai lue quelques mois après les attentats de Charlie, de Sigolène Vincent, une des dessinatrices, qui racontait qu'elle s'était cachée derrière une porte et qu'en fait, elle avait croisé le regard de Chérif Kouachi et que c'est parce qu'il ne l'avait pas tué. Et en fait, je crois qu'il lui a dit « Je ne tue pas les femmes », alors même qu'il venait d'assassiner froidement et violemment Elsa Kayat. Et le journaliste lui a demandé « Mais qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit quand vous avez rencontré son regard ?» Et elle a répondu, je crois, « Je l'ai trouvé beau ». Et cette anecdote-là, moi, elle m'a énormément consolée pendant des mois et des mois. En fait, je me suis inventé une fiction, c'est-à-dire que je me suis dit « Mais peut-être que Chérif Kouachi n'a pas assassiné Elsa Kayat parce qu'ils se sont regardés dans les yeux. » C'est sans doute pas vrai. Mais il y a quelque chose, en fait, de ces deux regards en présence et c'est qui est d'elle qui dit « Mais je l'ai trouvé beau ». Je me suis dit « Mais c'est presque une rencontre avortée, en fait. » Et qu'est-ce qu'on pourrait éprouver de l'autre si on prenait le temps de le regarder ? Enfin, je crois que, quelque part, le film naît de cette anecdote qui m'a profondément consolée et de la fiction que je me suis inventée à partir de cette chose-là.
Parce qu'au cœur de votre réflexion, il y a effectivement cette fracture au cœur de votre cinéma aussi. C'est presque une obsession. Quand est-ce que vous avez pris conscience, Alice Diop, de cette fracture, justement ?
Mais je pense que j'en ai pris conscience quand j'ai traversé, en fait, quand j'ai traversé la frontière. Moi, j'ai grandi à Aulnay-sous-Bois, dans une cité du 93, où j'étais pas forcément consciente qu'il y avait un autre monde. C'est-à-dire que, finalement, mon enfance, elle a été assez, paradoxalement, assez heureuse. Parce que j'avais pas d'un désir d'ailleurs, tellement le monde, pour moi, mon nous, était extrêmement restreint, et je n'avais pas du tout conscience du caractère restreint de mon nous. J'avais pas du tout conscience qu'il existait, si ce n'est à partir des images projetées sur la télévision. Enfin, le monde de l'ailleurs, en fait, m'apparaissait comme ça, mais j'avais pas forcément de désir d'ailleurs. Et c'est quand, à travers mes études, j'ai quitté j'ai passé cette frontière symbolique, cette frontière invisible, cette frontière sociale, notamment pour aller faire mes études à la Sorbonne. Là, j'ai complètement pris conscience, mais dans mon parcours personnel et dans la fragilité dans laquelle j'étais de traverser ces frontières-là, dans laquelle ça m'a mise, cet isolement, cette solitude, à quel point il y avait effectivement des mondes qui s'ignoraient profondément, complètement, et pendant longtemps, ça a été pour moi une source d'illégitimité, en fait, de parcourir ce monde-là. J'étais tellement mue par l'idée d'être acceptée, d'être intégrée, d'être acceptée dans ce monde où je connaissais, où j'avais pas les codes, où j'avais pas les repères, que j'étais plus mue par ce désir-là que saisie par la conscience que c'était une énorme force que d'avoir la possibilité de comprendre la France à partir de deux pôles complètement différents. Oui. Et que cette vision de la société française presque à 180 degrés que mon parcours social en fait me permettait d'avoir, ça allait être la matière et la source de mon cinéma. C'est-à-dire que c'est ça que j'avais envie d'interroger.
Alors précisément, raconter, parce que c'est ce que vous faites en tant que cinéaste, raconter les banlieues autrement. Quel enjeu est-ce que c'est, Alice Diop, pour vous ? C'est un enjeu politique aussi ?
C'est un enjeu politique et c'est un enjeu de réparation. C'est une manière de venger ma race, comme le disait si magnifiquement Annie Arnaud. C'est une façon. C'est tellement violent, en fait, de grandir dans un endroit, d'en faire une expérience sensible et que cette expérience non seulement soit niée, mais qu'elle soit récupérée, qu'elle soit configurée par le regard de l'autre. C'est-à-dire que quand on grandit en banlieue, on est raconté. Enfin, en tout cas, à mon âge, j'ai eu l'impression d'avoir été raconté uniquement par l'extérieur. Et dans la violence du regard qui m'était renvoyé de moi-même et des miens, il y avait quelque chose qui était une blessure intime. Et je pense que cette nécessité de raconter de l'intérieur, de rendre une expérience sociale, une expérience politique, une manière d'habiter le monde, une manière d'être français quand on l'interroge à partir des territoires et à partir de la vie des gens avec lesquels j'ai grandi, avec qui que j'ai côtoyé, pour moi c'est presque une réparation symbolique.
Vous y répondez effectivement par de nouvelles images, par de nouveaux récits, par effectivement des rencontres. C'est peut-être à ça que vous nous conviez dans ce film, qui en réalité est une série de portraits. Comment on fait pour créer un lien avec des gens qu'on ne connaît pas, Alice ?
Ben, je pense qu'il faut avoir la curiosité de l'autre, il faut accepter de vaciller, il faut accepter de de douter, il faut accepter de pas tout comprendre, il faut accepter de recueillir. Enfin, moi, ce qui m'a le plus fasciné en fait quand j'ai tourné Nous, au fond, c'était d'aller à la rencontre de ces mondes qui m'étaient totalement étrangers, notamment la chasse à courre, où finalement, bien sûr que j'ai une opinion politique et bien sûr que j'ai un point de vue sur la pratique de la chasse à courre dans les forêts françaises aujourd'hui, mais au fond, j'étais totalement fascinée par la découverte de ce monde-là qui au fond d'une certaine manière me permettait de j'ai pas besoin de tout comprendre, c'est-à-dire que l'autre peut me rester opaque, mais le fait d'avoir la possibilité de le rencontrer et de l'avoir la possibilité d'interroger mes propres fantasmes, c'est quelque chose qui est hyper stimulant quand on est documentariste.
Au bout du compte, Alice Diop, qu'est-ce qu'on répare grâce au cinéma? Est-ce que ça marche?
Moi, je pense qu'on répare une invisibilisation, on répare une silenciation des expériences intimes. On offre le cinéma, on offre des gens qui sont invisibilisés, on les offre à la possibilité d'être regardés, d'être reconnus, d'être considérés. Et ça, c'est une démarche extrêmement politique de permettre à des gens qui ne sont pas vus d'être non seulement regardés, mais dans la manière dont on va les regarder, dans ce qu'on va éprouver à partir de la manière dont leur récit est intime peut être partageable. Je pense qu'on répare un affront politique, je pense qu'on répare beaucoup plus avec le cinéma aujourd'hui qu'avec une parole politique, avec une pensée politique, en tout cas telle qu'elle se vit dans le cadre notamment d'une campagne. Enfin, je pense que c'est un outil de à la fois de partage et un outil de, et c'est un langage le plus universel en fait pour rendre partageable une expérience humaine. Et c'est
celle qui répare pas grand-chose dans cette émission. En revanche, vous la connaissez, Alice, c'est notre culture et son actualité. Pierre Feuille-Ciseau, que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 10 février?
Are you excited?
It's very festive.
I don't speak English. That's a Dutch question.
C'est bon, c'est beau, c'est Berlinale. Le Festival international du film de Berlin inaugure aujourd'hui sa 72e édition. Dès ce soir, c'est le nouveau film de François Ozon, Peter Von Kant, qui donnera le coup d'envoi des festivités en présentiel. Et sous la présidence de l'Américain M. Night Shyamalan, la manifestation verra 18 longs métrages s'affronter pour l'Ours d'Or, avec une belle présence tricolore, notamment grâce à Claire Denis, Michael Herz ou encore Quentin Dupieux en hors compétition. Enfin, une expo cinéphile sera consacrée à Godard, tandis qu'Isabelle Huppert recevra un ours d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Let's Eurocaen, les Eurocaen de Belfort s'apprêtent à faire leur grand retour cet été du 30 juin au 3 juillet prochain. Le festival dévoilera à 13h sa programmation complète, mais ce matin, dans Boomerang, on peut vous révéler en exclusivité une partie des réjouissances. Avec 80% d'artistes inédits à l'affiche, le festival accueillera notamment Clara Luciani, SCH, Isia, mais aussi Falls, Diplo, Paul Kalbrenner, Her, Caris et Kalash Criminel, Feu Chatterton, Bicep et Simple Mind. Rendez-vous dans moins de 4h sur le site Eurocaen. Pour la suite.
You know, science fiction, spacecraft, alien planet, my portfolio was full of that kind of stuff.
À la porte des étoiles, considéré comme le plus grand directeur des effets spéciaux de l'histoire, Douglas Trumbull est mort mardi. Il avait 79 ans, génie de la technique. Il avait accompagné l'essor de la SF au cinéma dès les années 70. Maître de l'image, passionné de nouvelles technologies, c'est à lui qu'on doit les effets de 2001, l'Odyssée de l'espace, de Kubrick, de Rencontre du troisième type, de Spielberg, ou encore de Star Trek ou de Blade Runner. Ciao maestro.
Tu devrais lui faire lire Les Misérables. À son âge, j'avais adoré.
Et enfin, chaud, chaud, le Landerneau, toujours en exclu ce matin, on peut vous annoncer que le prix Landerneau Album Jeunesse 2022 vient d'être attribué à l'ouvrage Mon Passage Secret de l'auteur et illustrateur Max Ducot, paru en août dernier aux éditions Sarbacane, destiné aux petits lecteurs dès 5 ans. Le livre, plein d'humour et de malice, met en scène les aventures loufoques de Lise et Louis à la recherche d'un passage secret extraordinaire à l'Isse d'Enfer. Cinéaste Alice Diop, invitée de Boomerang ce matin pour Nous au cinéma. La semaine prochaine, ce film documentaire passionnant, primé lors du dernier festival de Berlin. C'est un film très intime, on l'a compris, dans lequel vous revenez notamment sur l'histoire de votre famille, à travers certaines images d'archives de votre père. Quand votre père est-il arrivé au Sénégal?
En France?
Oui. Pardon, en France.
En France, en 1966.
Et qu'est-ce qui vous a raconté de cette arrivée, justement, en France?
Précisément rien. Vraiment rien. Et en fait, je crois qu'il me l'a raconté parce que j'avais une caméra. Et je pense que c'est, je crois qu'il a, il a pu le dire, parce que d'une certaine manière, moi j'ai pu lui demander, j'ai pu oser lui demander, parce que j'avais une caméra et qu'à l'époque je faisais des études de sociologie et je travaillais sur les Chibani. J'avais un projet complètement théorique sur la question des immigrés, sur la question des Chibani en fait, c'est-à-dire des immigrés retraités qui n'étaient pas retournés dans leur pays d'origine. Donc j'avais un cadre de référence extrêmement théorique et en fait je me suis aperçue qu'au fond la seule nécessité pour moi de faire ces études de sociologie, et en tout cas ce film qui était un film sociologique, c'était de recueillir cette parole qui ne m'avait jamais dite en fait.
Et justement dans ces silences, dans ces réponses en pointillés, qu'est-ce que vous avez décelé? Quel regard est-ce qu'il portait sur ce qu'a été sa vie ici en France?
Mais en fait, moi, je me rends compte que mes parents ne m'ont rien raconté de leur vie avant la France, ils ne m'ont rien raconté de leur vie... ni de leur arrivée, ni de ce pourquoi ils étaient partis, parce que j'ai grandi avec l'idée que cette histoire-là n'est pas légitime. En fait, c'est pas quelque chose qu'on m'a dit, mais c'est quelque chose qui, intuitivement, toute la société m'a dit. Et en fait, on grandit là-dessus. C'est-à-dire que il y a une impossibilité de faire récit, parce que ce récit n'est pas un récit glorieux, c'est un récit de vaincu, c'est un récit de perte, c'est un récit de douleur. Et au fond, il y a une absence totale, et en fait ce silence là tu me demandais tout à l'heure quelque part à quoi sert le cinéma. En fait, pour moi, profondément, il sert à réparer ce silence, mais qui n'est pas qu'une douleur intime. Je pense que ces récits en fait sont manquants, ils sont manquants collectivement, ils sont manquants pour la compréhension qu'on peut avoir d'une société française, d'une société contemporaine, d'une société multiculturelle européenne. Ces récits adviennent maintenant parce qu'on est en capacité de les produire, parce qu'on a la légitimité de le faire
et qu'on peut les entendre aussi.
L'une
des personnes auprès desquelles vous restez le plus longtemps dans Nous, c'est un immigré malien qui répare des voitures, qui vit dans des conditions plus que précaires. Cet homme qui fait partie précisément de ces invisibles que l'on croise parfois sans les voir, quelle histoire est-ce qu'il nous raconte?
En fait, justement, ce qui était intéressant dans le film, c'était de confronter l'histoire d'Ismaël à l'histoire de mon père. Ismaël est arrivé il y a 20 ans en France. Mon père en 1966, et leurs deux parcours parallèles racontent à quel point il y a quelque chose de l'hospitalité qui s'est totalement perdu. C'est-à-dire que moi, en fait, j'ai tout à rembourser du sacrifice que mes parents ont fait en venant en France. Et d'une certaine manière, c'est le fait d'être présent ici, c'est le fait de faire des films, c'est le fait de pouvoir quelque part venger, comme je le disais, leur race en faisant des films qui répare en fait la violence et la douleur qui a été pour eux cette fracture-là. Et j'ai l'impression que si Ismaël avait une fille aujourd'hui, je ne sais pas si dans 20 ans, elle aurait la possibilité de dire... et d'affirmer, et si elle aurait les outils, si elle aurait d'être à la place où je suis. Et c'est, pour moi, ça dit quelque chose qu'on a perdu, en fait. Et c'est ce que le film, d'une certaine manière, raconte, en confrontant ces deux histoires-là. Ouais.
Qu'est-ce qui fait la force d'une image documentaire pour vous, Alice Diop?
C'est qu'elle interroge le réel, c'est qu'elle dessie le regard, et elle répare en fait les fantasmes qu'on peut avoir du réel.
Mais c'est beau que vous disiez interroge, et c'est passionnant, un documentaire c'est aussi un point de vue, c'est une histoire qu'on raconte, c'est qu'on le veuille ou non une sorte de fiction.
En tout cas, c'est pour ça que dans mon film, le « nous », c'est pas un « nous » tautologique, c'est pas un « nous » objectif. C'est vraiment le « nous » d'une femme noire qui a grandi dans ces quartiers-là, en fait, propose, et qui part d'un « nous » très, 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 très familial. C'est-à-dire que c'est ma famille, mes archives, ça englobe ensuite les miens, ceux avec lesquels j'ai grandi, et c'est un « nous » qui va beaucoup plus loin. Oui. Donc c'est un film, c'est un film profondément subjectif, mais qui permet de regarder la France, qui permet de regarder l'histoire française, qui permet de regarder la mémoire, qui permet d'interroger qui a le droit au récit, oui, à partir de l'expérience d'une femme dont précisément l'histoire a été effacée et qui n'a pas été intégrée à un récit plus grand qui serait le récit national.
Mais je vais vous dire, moi, la question que je me suis posée en regardant votre film, qui est une grande question, la France, au fond, quelle fiction est-ce que c'est?
Mais tout, en fait, l'histoire est une fiction. C'est-à-dire que c'est pas tellement ce qui a été l'histoire, c'est qu'est-ce qu'on en raconte et qu'est-ce qu'on en dit à partir de là où on est. Et moi, ce que je peux dire à partir de là où je suis, c'est que la mémoire de Louis XVI, la mémoire de l'histoire de l'immigration incarnée par mon père, incarnée par certains des patients de ma sœur, est tout aussi importante pour la compréhension et pour la compréhension complexe qu'on a d'un processus historique. Alors que pour certains, je pense que cette histoire-là, elle n'est pas nécessaire. Et pour moi, elle est fondamentale et elle se rajoute à une histoire qui commence à Clovis. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est ça que je vois à mon endroit, et j'en suis profondément convaincue et profondément consciente.
On va reparler ensemble de France, de réel, de fiction, juste après Jean Ferrat, Ma France, en 1969, qui résonne. C'est magnifique à la fin de votre film. Nous, vous êtes sur France Inter avec Alice Diop. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche, quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France, cette terre de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo tenant de son exil des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit qu'on la fusille, ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres des luards s'envolent des colombes, ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe, ma France. Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui paie toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fosses communes, que je chante à jamais celle des travailleurs, ma France.
France Inter, Boomerang, Augustin Trapenard.
Vous savez, elle a quelque chose de la liberté guidant le peuple. Hein. Le sourire république, le regard droit de l'homme, la voix qui vous porte, on a envie de la suivre, tout en boucle d'oreilles dorées, tout en noir ce matin. La cinéaste Alice Diop, invitée de Boomerang, pour nous, l'une des sensations de la dernière Berlinale au cinéma mercredi, un film qui prend le contre-pied en fait, de toutes les images figées qui sont associées à la banlieue, un film qui refuse en fait, le sensationnalisme. Et ça, c'est ce que permet le cinéma, j'ai l'impression.
Bah en tout cas, moi, c'est ma mission. C'est-à-dire que, en effet, la banlieue, elle a été souvent enfermée dans des images sensationnelles, dans des images spectaculaires. Et en fait, beaucoup de gens, beaucoup de cinéastes, beaucoup de journalistes se sont intéressés aux problèmes de la banlieue. Et en fait, elle a été très, très souvent racontée à partir de ça, le problème de l'islam radical, le problème de la délinquance, le problème de la violence, etc., etc., etc. Et tout, moi, je me suis interrogée, et je m'interroge sans cesse sur la fonction de la production de ces images dominantes qui ressassent, et la nécessité pour moi d'inventer un contre-discours, d'aller regarder la banalité et l'ordinaire.
Mais combien il pèse, en fait, ce contre-discours, c'est une question que vous devez vous poser aussi. Que pèse une image de cinéma face à toutes les autres images, ces images qui défilent en continu toute la journée à la télé, sur Internet, sur les réseaux sociaux?
En termes d'augmentation de la pensée, elle pèse très très lourd. Mais en termes de rentabilité, c'est une question que je me pose à chaque fois que me vient l'idée de faire un film.
Parce que la violence, c'est ça qui est quand même très intéressant. Vous choisissez de la maintenir tout à fait dans le hors-champ, vous la montrez jamais. De quelle violence est-ce que vous choisissez de ne pas parler? Par exemple.
Mais moi, c'est pas tellement que je la mets en hors-champ ou que je la nie, c'est que je raconte, en tout cas ce film, j'avais envie de raconter la banlieue telle que je la vis. Moi, j'y vis encore, ça fait 43 ans que j'y vis, que je la côtoie. Et cette violence-là, elle est ce fantasme d'une violence qui serait là tout le temps, c'est précisément contre ces images, contre cette facilité de penser que tout mon cinéma s'inscrit. Et moi, je raconte la banlieue telle que je la vois. Ça ne veut pas dire que je nie et que c'est un discours totalement angélique. C'est que j'interroge précisément pourquoi on ne voit de la banlieue que c'est, pourquoi on ne peut produire que ces images de violence. Et presque que prendre le contre-pied de ça, de la montrer dans son réel, dans son quotidien, dans sa matérialité, c'est s'opposer et c'est questionner justement la production systémique de ces types d'images. Et c'est le projet de la Cinémathèque de la banlieue que j'ai par ailleurs initié avec les ateliers Médicis et le Centre Pompidou. L'idée, c'est en fait, c'est de faire le compte de tous les films qui ont été produits en banlieue pour déployer en fait la complexité de la manière dont on la regarde. Et c'est de ne cesser d'offrir ça et d'en tenter de résister par ça, en faisant ces films, en les programmant, en les diffusant, en en prenant soin, à la violence, en fait, de ces images dominantes qui prennent toute la place, oui, et qui prennent presque toute la place de nos imaginaires aussi.
Précisément, parce que quand je vous ai demandé de réfléchir à un sujet d'actualité, vous m'avez répondu, Ziad Benna et Bouna Traoré, Clichy-sous-Bois 2005, ces deux adolescents morts électrocutés alors qu'ils tentaient d'échapper à un contrôle de police, cette tragédie qui a 17 ans, dont vous dites que vous y pensez encore, toujours, tout le temps. Qu'est-ce qu'elle marque pour vous, Alice Diop ?
Elle est fondatrice de mon entrée dans le cinéma. Ça a été un moment d'une telle violence, d'une telle blessure, dans la mort de ces deux adolescents qui rentraient du football et qui se sont retrouvés électrocutés parce que pour échapper à un contrôle de police. C'est à la fois les petits frères de mes amis, mais aujourd'hui c'est presque mon fils dans deux ans, parce que mon fils a 13 ans et quand on est une mère d'un enfant métis, donc qui est probablement perçu comme noir, en Seine-Saint-Denis, on ne peut pas ne pas penser à Bouna et Ziad. Quand ils rentrent du basket, je ne peux pas ne pas penser à eux. Et je pense que c'est une mort qui dit la violence aussi de ces destins volés, en fait, et ce qu'on en a fait, ce que les gens en ont raconté à l'époque, ça a été d'une telle violence que j'ai eu le besoin de prendre une caméra pour aller précisément raconter les violences silencieuses qui, en fait, étaient à la source, oui, de l'éruption de violences ensuite qui ont mené aux émeutes de 2005. C'est-à-dire que tout d'un coup, ces émeutes-là qui étaient une manière, une espèce de catharsis de la violence, ça a été tellement raconté, ça a été tellement pensé de l'extérieur comme quelque chose qui nous faisait mal. C'est-à-dire que la violence d'avoir été victime de cette chose-là nous était renvoyée et le récit qu'en faisaient les médias à l'époque était tellement sidérant de violence. Enfin, ça nous maintenait encore plus, je sais pas comment le dire. Enfin, pour moi, ça a été un acte fondateur j'ai décidé de prendre une caméra, d'aller un an à Clichy pour en fait me consoler et pour me consoler de la violence qui m'était faite et de la mort de ces deux adolescents et de ce récit qu'on en a fait, des émeutes qui ont suivi.
On a commencé cette émission en parlant de fracture. Alice Diop, à quelles conditions est-ce qu'une fracture peut être réparée, peut être soignée, peut être guérie, à votre avis ?
Bah, par le cinéma. Par exemple, moi j'ai le sentiment que ce film, nous, c'est une utopie dans le sens où, en fait, il met en présence des mondes qui s'ignorent profondément, mais il permet de rentrer dans chacun de ces îlots. C'est-à-dire que chacune des histoires, chacun des fragments d'histoire que déploie le film, en fait, c'est un monde en soi, et c'est un monde qui s'oppose à un monde et qui s'oppose à des mondes qui s'ignorent. Et j'ai le sentiment que ce film tente de traverser les frontières et d'en fait de rapprocher ces mondes-là d'une certaine manière. Et je pense que le cinéma, dans la manière, dans la puissance qu'il a de faire partager une expérience singulière, une expérience humaine, peut nous rendre proches des gens qu'on ne savait pas, qu'on ne voyait pas, qu'on ne voulait pas voir.
J'aimerais qu'on vous écoute encore. Et cette fois, nous lire un texte de la poétesse Audre Lorde que vous avez choisi. Ça s'appelle Une litanie pour la survie. C'est à vous.
Pour celles d'entre nous qui vivent sur la frontière, qui se tiennent constamment au bord des décisions cruciales et uniques, pour celles d'entre nous qui ne peuvent se permettre les rêves fugitifs du choix, qui aiment dans les couloirs, vont et viennent entre deux aubes, regardent dedans, dehors, avant, après, en même temps, à la recherche d'un présent qui puisse nourrir les futurs, comme le pain dans la bouche de nos enfants, de sorte que leurs rêves ne reflètent pas la mort des nôtres. Pour celles d'entre nous qui ont la peur gravée comme une trace imprécise au milieu du front, apprenant à craindre le lait de notre mère, car avec cette arme, cette illusion de trouver une certaine sécurité, les brutes espéraient nous réduire au silence. Pour nous toutes, qui n'étions pas censées survivre à cet instant et ce triomphe. Et quand le soleil se lève, nous craignons qu'il ne dure pas. Quand le soleil se couche, nous craignons qu'il ne se lève pas au matin. L'estomac plein, nous craignons notre indigestion. L'estomac vide, nous craignons de ne plus jamais manger. Aimer, nous craignons que l'amour s'évanouisse. Seul, nous craignons que l'amour jamais ne revienne. Et lorsque nous parlons, nous craignons que nos mots ne soient pas entendus, pas accueillis. Mais quand nous sommes silencieuses, nous craignons encore. Alors il vaut mieux parler, en se rappelant que nous n'étions pas censés survivre.
Alice Diop, puis vous êtes arrivée à vous aussi de penser que vous n'étiez pas censée survivre ?
Complètement, ouais. Je pense que le cinéma, je pense que l'amour de ma famille, je pense que m'a permis de survivre à plein de choses, ouais.
Diriez-vous qu'avec du cinéma, on a moins peur ?
Je ne sais pas si on a moins peur, mais en tout cas, on est abruté des bruits qui peuvent altérer notre sensibilité et qui peuvent altérer notre humanité, quoi.
Merci infiniment d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Nous sort mercredi et que vous serez à partir de demain jusqu'au 14 février au Centre Pompidou pour présenter l'ensemble de vos films au gré de rencontres et de discussions. Ça promet d'être passionnant. Tout de suite, les médias, Sonia De Villa et son Instant M, juste après ça.
Why you always doing that? Breaking up with me, then making up just to make me mad. I think that you taste like rock candy, sweet like peaches, leave me all sandy. Why do you leave me with water?
Watercolor Eyes dans la bande originale de la série Euphoria. J'écoute en boucle en ce moment. Il est 9h40 sur France Inter. Sonia De Villers, l'instant M, ça va Sonia ?
C'est joli. Elle est super jolie cette chanson.
Ouais, la Del Rey, c'est la classe, on va pas se mentir.
Bon, salut Augusta, à demain.